leur chant. Bonjour, hors champ, second volet de l'émission avec Sylvie Germain. Il pénètre dans un bois, s'enfonce dans l'ombre d'un taillis, il s'y embusque. Il n'a plus la force de fuir, d'errer sans fin la peur aux tripes. Il est à bout de souffle, sa respiration se fait difficile, comme empêchée. Il lui faut pour un temps s'arrêter, se terrer dans un abri. Voilà un court extrait de votre dernier roman, intitulé « À la table des hommes », Sylvie Germain. Et je me suis demandé, en lisant ce livre, qui est à la fois métaphorique, poétique, philosophique, spirituel aussi, si l'écriture, c'était comme se terrer dans un abri.
C'est les deux. C'est se terrer dans un abri, mais parfois aussi, c'est terriblement s'exposer. L'écriture, c'est à la fois, effectivement, on peut l'envisager comme une protection contre une sorte d'effroi ou contre l'angoisse ou contre l'angoisse d'un questionnement qui nous taraude. Et en même temps, ça nous expose d'autant plus.
Ça vient comment, l'écriture ? Est-ce que ça vient à partir de l'observation d'un paysage, d'une lumière ? Comme par exemple dans le dernier livre, À la table des hommes, on reviendra sur les autres ouvrages parus maintenant depuis 2010, mais dans celui-ci... L'observation, la sensualité avec laquelle vous utilisez dans le vocabulaire de la langue française ce paysage.
C'est surtout dans la première partie, puisqu'il s'agit d'un animal au début, et je vais suivre un animal, en l'occurrence un cochon, et comment peut survivre un animal normalement qui aurait dû être domestique, mais la ferme où il était, bon, détruite sous des bombes, une guerre parmi tant d'autres malheureusement, et cet animal va survivre quelques mois dans une forêt avant de connaître une expérience assez étrange, puisqu'il va y avoir rencontre avec un humain et transformation en un sens en humain. Mais dans cette première partie, je voulais pas faire d'anthropomorphisme, prêter des sentiments, des idées, c'était assez ridicule, mais c'est pas évident de se d'écrire à hauteur de cochon. Et qu'est-ce qui qualifie par excellence le cochon ? Enfin, quel est le sens le plus développé chez lui ? Hyper développé, c'est le flair. Donc, il fallait traduire ça. Mais comment traduire dans du langage l'univers de l'odorat ? Et le vocabulaire n'est pas si détaillé que ça. Il y a certains domaines pour qualifier dans notre sensibilité, par exemple pour les couleurs, pour la vue ou pour l'ouïe, on va avoir peut-être plus de vocabulaire que pour le goût, le toucher ou surtout l'odorat. Ou alors on tombe dans des termes trop techniques. Donc c'est vrai que ça demandait certains efforts d'attention aux mots que je choisissais pour évoquer des odeurs ou une sensualité, mais odeurs ou tout ce qui était vraiment de l'ordre du sensible plus immédiat, tactile et olfactif.
Alors comment se met-on à hauteur de cochon quand on est écrivaine ? Voici ce que vous écrivez. Leur haleine est chaude, odorante, elle imprègne de moiteur le silence que sans cesse ils ressassent, leur silence est écoute et manducation de la vie en eux, autour d'eux. Ils sont en placide accord avec la terre, ils font corps avec elle, la terre, la vie, leur chair, le sang qui circule en eux, la faim autant que la satiété, la course autant que les haltes de délassement. C'est tout un. Ils ne s'inquiètent pas du temps qui passe, ils ignorent ce qu'hier et demain signifient et portent de nostalgie, de soucis ou d'espoir. Ils habitent chaque instant en plénitude, les agréables comme les mauvais, et selon ils réagissent, s'adaptent. Et donc on a vraiment l'impression que vous allez, comme dans l'image du terrier que j'ai citée tout à l'heure, que vous allez utiliser des fragments de la langue française pour pouvoir exprimer ce que pense, je ne sais pas si on dit pense pour un cochon.
Je dirais ce qu'éprouve
Surtout, ce que ressent.
Parce que là, c'est un passage où il est auprès d'un autre animal. Et ce qui me frappe chez les animaux, effectivement, ils habitent vraiment l'instant. Alors souvent, quand c'est des animaux sauvages particulièrement, ils sont quand même souvent dans la fuite, échappés aux prédateurs, qui étaient eux-mêmes une proie. Inquiéter leur nourriture, c'est des vies épuisantes que la vie des animaux. Il suffit même de regarder les oiseaux qui nous charment tant, même des petits passereaux merveilleux avec des chants délicats. Ils se foutent des pâtés incroyables pour défendre leur territoire, pour acquérir telle nourriture. Mais quand les animaux, surtout je pensais aux grands ruminants, comme on peut voir dans des prés, ça m'a toujours frappé quand j'étais enfant de regarder, j'allais souvent en vacances dans le Morvan où il y avait ces fameux bœufs blancs absolument magnifiques et j'étais toujours étonnée de la placidité apparente du moins de ces animaux quand ils sont couchés et on sent qu'ils savent que l'animal a un sens inné de la jouissance du moment. Quand justement ils sont en paix, ils sont repus, il n'y a pas de menace, là où l'humain, même bien installé, va ressasser, va être dans des inquiétudes, va se poser des questions. Et j'étais frappée de sentir cette plénitude, cette manière d'habiter le monde en plénitude propre à l'animal. Et j'ai repensé plus tard, quand j'ai lu Rilke, surtout dans les élégies, il y a des moments où il parle comme ça des animaux, avec cette formule célèbre, de tous ses yeux, l'animal voit l'ouvert. Et effectivement, même si ça peut prêter à discussion cette affirmation, il y a quelque chose de cet ordre-là, et que nous, on perd dès qu'on sort de la toute petite enfance. Il y a cette inquiétude qui fait le propre de l'humain. Et c'est dans les élégies, je crois, il y a cette phrase merveilleuse de Rilke, après avoir parlé des animaux, il dit « Mais nous, qui nous a ainsi retournés que quoi que nous fassions, nous avons cette allure de celui qui s'en va et toujours se retourne. » On est toujours en train de regarder ce qu'il y a derrière, dans la mélancolie, projeter ce qu'il y a devant, et le présent, on le rate.
Donc en fait, vous jalousez l'immédiateté de l'instant dont jouissent les animaux.
Oh, je jalouse pas du tout. On peut leur envier, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pour autant que je rêverais de devenir un porcin ou une chèvre ou quoi que ce soit. C'est pas la question. En même temps, c'est par une espèce d'intuition ou d'empathie qui a des limites, bien sûr, essayer de comprendre cette manière d'être au monde qui nous est très différente et qui, en retour, nous oblige aussi à l'égard de l'animal. Parce que tout ça, c'est une espèce de grande candeur chez l'animal. Je dis pas d'innocence, un animal peut être un grand prédateur. Il y a une violence folle aussi dans le monde animal. Mais quand ils ont obtenu ce dont ils ont besoin pour assurer leur survie, ils sont inoffensifs. Un lion repu, vous lui mettez à côté une petite gazelle, il va pas sauter dessus s'il est repu. Alors que les humains, ils sont jamais repus.
Comment vous est venue cette histoire? Parce que quand on regarde la totalité de vos romans, on se dit que c'est nouveau quand même, cette histoire de devenir animal et puis ensuite de cette métamorphose. On va pas tout dire aux auditeurs qui n'auraient pas encore lu votre livre, mais c'est quelque chose qui surgit comme ça, de singulier.
Je crois que c'est venu un peu de... On est très poreux à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait. Et parfois, à force d'entendre certaines informations ou d'être plus sensibilisé à certaines questions, il y a un moment où il y a une petite étincelle qui se déclenche.
Et... C'est pas du tout un conte, hein. Vous n'écrivez
non,
pas un conte.
Non, c'est pas un conte. Il y a une part assez
ce n'est
très
pas
réaliste.
Fantastique non plus. Non. Grâce à l'apprentissage, notamment... De la lecture.
De la lecture, des mots, et il va réussir grâce à quelqu'un qui lui-même, même si c'est un petit détail dans le roman, mais un homme qui, du fait d'une, on va dire, extrême dépression, extrême mélancolie, est tombé dans une sorte d'abîme de silence, de solitude, de renfermement, et c'est presque un homme qui se laisse mourir en un sens aux autres et donc à soi-même. Et le fait de rencontrer pour cet homme cet enfant totalement démuni d'une totale candeur lui redonne le goût des mots. Il se réapproprie lui-même la langue en l'apprenant à l'autre. Et je crois d'ailleurs que c'est le propre de l'enseignement peut-être, que les vrais bons enseignants c'est ceux-là. C'est ceux qui réapprennent constamment en enseignant aux autres. Parce que si on enseigne un peu comme du haut d'une chaire, avec un sentiment de toute puissance et de n'avoir qu'à donner un savoir. Je pense que c'est, on peut donner des sortes de connaissances, mais pas la saveur du savoir. Voilà, c'est à ceux auxquels on est censé le donner. Alors que là, c'est une sorte de remise au monde mutuelle entre ces deux personnes.
Alors, chaque chapitre de ce dernier livre est scandé par une citation. Pourquoi ? Et c'est des citations, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Hein. Il y a Thomas Strandstromer, il y a, je pense, Nietzsche.
Non, il y a pas Nietzsche. En fait, c'est plutôt à l'entrée d'un nouveau chapitre, il y a une citation de poésie. Si je pouvais, je mettrais des citations de poésie trois fois plus, quatre fois plus, parce que quand on aime un poème, comme quand on aime une musique, on a envie, ou un tableau, on a envie de le partager, de le montrer aux autres. Et parfois, on trouve dans quelques vers d'un poète comme la condensation de, finalement, même si c'est après coup qu'on le trouve, la condensation de ce qu'on a mis dans son récit.
Comme une sorte de rythme. Il y a aussi Aimé Césaire.
Aimé Césaire, oui, parce que je trouvais ça, cette phrase, assez étonnante, avec la répétition du mot homme, et qui en peu de, en une phrase assez resserrée comme un point, montre qu'il en est à la fois d'un même mouvement de la révolte et du refus de la haine de se laisser gagner par la haine du haineux, et à la fin, qui introduit en fait plus rien, le livre s'achève là-dessus. Moi, j'aime bien me dire qu'à la limite, si le lecteur a eu envie d'aller jusqu'au bout du livre, il peut très bien le continuer aussi au-delà de cette citation.
En prenant des auteurs, en continuant avec les auteurs que vous citez, comme une sorte de cadence entre les chapitres. Alors on se demande pourquoi vous n'écrivez pas de poésie, vous qui êtes gorgé de poésie.
Gorgé pas suffisamment, parce que je suis pas poète. Avoir une prose poétique, oui. On me pose souvent la question, mais être poète c'est autre chose. Et c'est pas parce que j'ai une prose poétique, du moins dans certains livres ou certains passages, que ça fait de moi un poète. Moi ce que j'aime, le génie de la poésie, c'est la capacité aussi de concision. Et moi, je ne suis pas dans la concision comme ça, je ne suis pas dans ce resserrement. C'est un autre travail, même être, je ne suis pas nouvelliste, par exemple. J'en ai écrit quelques-unes, il y a très longtemps, des nouvelles. Mais je sens bien que ce n'est pas non plus mon univers. Et je ne suis pas non plus auteur de saga, je n'ai pas le souffle pour ça. Je crois qu'à chaque fois, il faut aller là où on sent que c'est son espace de création, ce n'est pas la peine de tricher.
Mais comment on sent où est votre territoire de création ?
Eh bien, je redeviens un animal et je laisse parler mon flair. On a aussi un flair à ce niveau-là. C'est pas le flair du petit cochon, mais c'est aussi un flair. On sent très bien. Enfin, moi, j'avoue, quand j'écris, je suis toujours frappée parce qu'on est toujours dans la contradiction quand on écrit. On part et moi je pars, je sais pas où je vais. Tout est à découvrir. Donc c'est un mélange d'excitation totale, mais aussi de panique. D'autant plus quand il y a des moments où l'inspiration est vraiment pas au rendez-vous, il faut attendre.
Donc et tous les jours à la table de travail.
Tous les jours, oui ou pas, j'ai pas un rythme. Mais même quand on n'est pas à sa table de travail, dans sa tête, on l'est de toute façon. On est là dans le ressassement, etc. Et alors le paradoxe, c'est d'être à la fois avoir envie d'être déjà à la fin pour connaître la fin de l'histoire, pour se dire j'ai réussi, et en même temps, on veut repousser toujours plus loin l'échéance parce qu'il y a aussi cette jubilation, excitation d'être dans l'écriture et la découverte. Et vers la fin du livre, chaque fois que je fais l'expérience, je sens que c'est la fin. Je voudrais parfois prolonger encore, je me dis intellectuellement, on peut trouver des raisons de continuer. Et je sens qu'il y a quelque chose en moi, c'est qui passe même pas par le langage, je le sens que ça va être faux, que je vais outrepasser ce que j'avais à dire ou à faire. Et il y a un moment où le point final arrive et c'est vraiment fini. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, non pas que je décide d'une manière rationnelle, c'est une sorte d'épuisement intérieur où il y a un petit signal d'alarme qui s'allume et c'est fini.
Oui, mais quand c'est fini, ça veut dire que c'est la fin du texte, c'est pas forcément des romans, parce que vous publiez aussi des textes qui sont plutôt des essais philosophiques. Mais ce qui est extraordinaire, notamment dans les dernières années, c'est l'hétérogénéité de votre écriture. Je défie quiconque, il y a bien des dégustations à l'aveugle de grands vins. Si on faisait une dégustation à l'aveugle de deux textes de Sylvie Germain qui ne sont pas très éloignés, puisqu'il y en a un qui a été publié en 2013 et l'autre en 2016, Je veux parler de Petite scène capitale et de À la table des hommes. Je défie quiconque de dire qu'il s'agit de la même personne.
Oui et non, parce que dans le choix des mots et dans le rythme des phrases, il y a certainement quelque chose qui se retrouve. Comme tout écrivain, tout romancier, on a certaines obsessions, on creuse un même sillon, même si on le creuse avec des moyens parfois un peu différents et dans toutes les diagonales. Mais je pense qu'avec la langue, même si le travail n'est pas le même dans chaque livre, il y a des choses qui doivent se retrouver. Enfin, je sais pas, peut-être je me trompe.
En tout cas, ni dans les thématiques, ni dans l'art romanesque, ni dans les enjeux de la matière même de l'écriture, on ne peut reconnaître vous. Peut-être la musique, Sylvie Germain, mais en tout cas, ni les thématiques. On a l'impression qu'à chaque fois que vous écrivez un bouquin, c'est un nouvel enjeu. Ce sont des pages blanches, ce sont des nouvelles problématiques. Vous allez nous emmener dans des directions totalement opposées. Pourquoi ?
Mais parce que, au fond, je pense que c'est toujours la même obsession. C'est l'étonnement devant l'énigme de ce qu'est l'être humain. C'est ça le roman, c'est vraiment, on met en scène des personnages, alors on peut choisir...
Mais comment ils vous viennent, les personnages ? Par exemple, dans Petite scène capitale, comment elle vous est venue, l'idée de cette petite fille qui a été plus ou moins abandonnée, qui n'a pas eu véritablement la possibilité de croire en l'amour de son père, dont la mère a disparu sans que cette disparition ne soit nommée ni expliquée? Ça vient d'où?
Je sais pas, peut-être du fin fond de ma propre enfance, qui n'a rien à voir avec ça d'ailleurs, qui était une enfance finalement plutôt heureuse et protégée, c'est pas la question, mais entre la réalité, ce qu'on appelle la réalité, et ce que l'on ressent ou ce que l'on vit, il y a toujours un décalage. Et finalement, vous avez raison, dans mes livres, il y a des constructions différentes, des approches différentes, mais en général, il y a quand même toujours l'histoire avec un grand H, surtout celle du XXe siècle. Je suis très ouverte à ce XXIe siècle, où je suis très heureuse d'avoir eu la chance de pouvoir continuer à vivre, mais au fond de moi, je sais que je suis très ancrée dans le XXe siècle. Est profondément marqué par ce qui a déchiré le XXe siècle, en l'occurrence la Première Guerre mondiale, la Seconde, la Shoah et tout ce qui a pu suivre. Et dans la plupart de mes romans, que ce soit d'une manière plus évidente, comme dans un livre qui s'appelle Magnus ou dans mes tout premiers romans, la présence de la Seconde Guerre mondiale y est très importante, ou même d'autres guerres, même si c'est d'une manière plus diffuse ou parfois pas nommée, comme dans mon dernier livre, je ne nomme pas les lieux, je ne date pas, mais tout est reconnaissable. Mais je voulais pas faire un travail d'historienne qui m'aurait... Si j'avais daté, cité les lieux, ça m'aurait obligé à aller tout vérifier.
C'est toujours atemporel ce que vous écrivez.
C'est atemporel, mais inscrit en même temps dans le temps. Et donc, dans le dernier livre, au début, on peut deviner que c'est les guerres d'ex-Yougoslavie. Et à la fin, bien sûr, une actualité qui reste absolument brûlante.
Nous allons écouter Marguerite Duras au micro de Raymond Barthes sur la différence entre la nouvelle et le roman. C'est une archive du 29 janvier 1955, juste au moment où Duras publiait des journées entières dans les arbres.
Madame, pourquoi vous êtes-vous tournée vers la nouvelle ?
À vrai dire, j'ai fait des nouvelles depuis très longtemps. Enfin, parmi ces quatre nouvelles, il y en a trois qui datent d'au moins 5 ans. La dernière date de 54, mais j'ai toujours été plus ou moins attirée vers la nouvelle, tout en faisant des romans. Je pense qu'un auteur ne peut pas éviter cela, ces inspirations courtes, d'instant, pour ainsi dire.
Et vous êtes d'accord, je crois, sur ce point, une nouvelle, même très longue, n'est pas un roman très court.
Absolument. Non, c'est une chose, c'est une dimension totalement différente.
Est-ce le sujet ? Est-ce le développement psychologique ?
Je pense que c'est la durée de la chose qui compte, n'est-ce pas ? Qui est définitive dans une nouvelle, qui différencie plutôt une nouvelle du roman. Il y a une unité de temps dans la nouvelle qui ne se trouve pas forcément dans un roman.
Comment comprenez-vous ces propos de Marguerite Duras, madame ?
Mais déjà, c'est toujours j'avoue un bonheur de réentendre la voix de Duras. Et puis, selon la date de l'enregistrement, le changement aussi dans le... Vous voyez, vous parliez du style qu'on reconnaît pas spécialement, mais il y a une musicalité dans une voix humaine aussi. Et Duras, sa voix n'est plus la même quand elle est une vieille femme. Là, c'est une voix encore jeune, encore... est datée même presque, on a envie de dire, socialement. C'est très étonnant. Et c'est une belle voix. Et en même temps, on sait que c'est Duras. Et elle est beaucoup plus calme que plus tard, là, parce que je pense que plus tard, elle aurait un peu rué dans les brancards avec la personne qui l'interviewait. Oui, elle savait de quoi elle parlait, parce qu'elle a pu écrire des textes, même dans ses romans. Ils étaient plutôt court, c'était très resserré, toujours chez Marguerite Duras. Mais elle a raison, ça n'a rien à voir. L'art de la nouvelle et l'art du roman, c'est très très différent. Il y a un souffle particulier nécessaire au roman, et c'est pas ça la qualité première d'une nouvelle. Dans la nouvelle, on peut se permettre beaucoup moins de temps mort, parfois dans un roman, on peut se permettre non seulement des temps peut-être un petit peu plus, vous voyez, ralentis ou moins forts, ou plus faibles tout simplement. Plus on va vers du texte resserré, moins on peut se permettre des petites défaillances ou des temps faibles. Et il faut aucun remplissage, aucun. Et en même temps, il y a des romans que je trouve parfois un petit peu volumineux, et finalement, l'auteur n'avait pas l'inspiration suffisante pour ça. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas Tolstoï, hein, pour pouvoir écrire des sortes de romans énormes, comme on peut dire, fleuves qui, il y en a, on sent, c'est du remplissage, et il y a beaucoup de choses qui pourraient être éliminées. Donc, même, non seulement on peut pas les confondre, mais même à l'intérieur du roman, parfois, il faut presque retrouver le resserrement, la nervosité aussi qu'on peut trouver dans une nouvelle.
Elle part à la dérive, elle lâche tout, mais peu à peu et à bas bruit. Elle quitte le foyer pour une chambre en ville, minuscule, mais non perchée sous les toits comme la plupart des chambres de bonne louée aux étudiants. Elle est en demi-sous-sol, éclairée par une fenêtre soupirail pourvue de barreaux. Pour en payer le loyer, elle a trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique de boîtes à musique, de poupées automates et de jouets mécaniques, de coffrets à bijoux en bois peint, laqués, aux casiers tapissés de velours grenat ou de satin ivoire, aux serrures ornées de clés dorées. Une échoppe à rêves, à frivolité, à 12 enfantillages. Située au fond d'une cour, elle est sombre et calme. Les clients peu nombreux, mais ceux qui y entrent s'y attardent longuement, enchantés par l'atmosphère du lieu. Elle remonte les mécanismes de ces divers objets selon les souhaits des visiteurs, en commente la fabrication, en vante l'originalité, etc. Ça, c'est le chapitre 30, donc, de Petite Scène Capitale. Petite Scène Capitale au pluriel. Est-ce que vous acceptez, Sylvie Germain, qu'on dise de vous, dans votre écriture, qu'il y a un côté de drame psychologique et d'observation du point de bascule d'un individu, en l'occurrence cette jeune femme, qui est votre héroïne dans Petite Scène Capitale, qui finalement, à un moment de sa vie, va perdre tout à fait la dignité et la perception qu'elle a de la dignité de son existence.
Essayer de capter, effectivement, de saisir cet insaisissable par excellence, qui est le moment de bascule qui peut survenir chez des êtres, bien sûr, c'est quelque chose, je pense, qui nous trouble tous. Et l'écriture peut permettre, avec une certaine lenteur, justement, c'est un peu comme si on mettait ça sous un microscope, je sais pas, ou qu'on passe une vie au ralenti, en s'arrêtant sur des séquences. En fait, Petite Scène Capitale, c'est comme des séquences d'une vie, depuis la petite enfance jusqu'à un âge où elle est relativement âgée à la fin du livre. Et c'est finalement, s'il y a un fil conducteur dans mes derniers livres, depuis peut-être 5-6 romans au moins, il y a quand même un fil conducteur derrière ce qui peut sembler très différent, même disparate. C'est comment se constitue une individualité, comment ça se constitue une personne au fil du temps. Et c'est ça, les petites scènes capitales. Il n'y a pas que les grandes scènes capitales, celles qui relèvent de la sexualité, ou de la violence, ou de la mort, ou des choses vraiment traumatisantes. Mais nos vies aussi, à côté, elles sont vraiment jalonnées de toutes petites scènes capitales qui peuvent être aussi tout à fait d'émerveillement. Et d'ailleurs, les moments d'émerveillement qu'on peut connaître dans la vie, émerveillement, pas obligatoirement devant du sublime, ou des œuvres d'art, ou les fameux couchers de soleil, ou le ciel étoilé de Kant, etc. L'émerveillement peut nous venir, moi je les ressens encore, je donne souvent l'image, vous savez, de ces taches d'huile, des taches d'essence qui se déposent parfois sur l'asphalte. un peu d'essence qui a coulé d'une bagnole, quoi. Et si vous regardez, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est d'une beauté. Ça m'a toujours mise à l'arrêt. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé plusieurs fois dans des textes, de parler de ça. Mais ça peut être la poussière qui tourne dans un ray de lumière. Et ce que des peintres comme Hammershøi ou d'autres ont tellement bien rendu. Et pourquoi on s'arrête devant un tableau d'Hammershøi où il se passe rien, parfois? Et les tableaux, parmi ceux que je préfère de lui, c'est des pièces vides. On voit le bois, les lattes de bois, gris, bon. Et puis, il y a un peu de lumière, il y a des raies de lumière. Et ce simple ray de lumière, ça, moi, ça me met à l'arrêt. Le peintre aussi, c'est ça. Le musicien, c'est ça. Les artistes, c'est ça. Un je ne sais quoi va les mettre à l'arrêt. Là où d'habitude, on passe outre, on fait pas attention. Mais le banal est d'une richesse inouïe. Et dedans, c'est rempli de petites scènes capitales.
Paul, après avoir tergiversé pendant des années quant à sa vocation religieuse, s'est enfin décidé. Il a choisi non la voie monastique à laquelle il se croyait destiné, mais celle de la prêtrise. Sa décision lui est venue d'un coup, comme pour attraper le temps perdu. C'est un mot entendu, en passant dans une rue, proféré d'un ton hérissé de mépris et de détestation par un quidam en train de promener son chien à la vue d'un homme assis sur un banc, qui a provoqué le déclic, écrivez-vous dans Petite Scène Capitale. Parce que dans toute votre littérature, Sylvie Germain, il y a des mots qui font mal. Là, ce mot qui fait mal, c'est le mot « crouillat ».
Ah, je le trouve atroce. Enfin, tous les mots d'insulte et d'injure sont hideux, mais celui-là, toujours sonné aux oreilles d'une manière absolument épouvantable. Il y a d'autres mots aussi à l'égard, que ce soit des Juifs, des Arabes, des Africains, des Asiatiques, enfin, peu importe. Tous ces mots d'injure ou à l'égard des femmes ou à l'égard des homosexuels, il y en a qui, parfois, ça peut utiliser de manière presque ludique. Un peu dérisoire, mais il y en a, on sent, en aucun cas, on peut rire avec. On sent qu'ils sont chargés de haine, de mépris. C'est peut-être le son de ce mot-là. Je le trouve épouvantable, oui. Et un mot, parfois, ou une insulte, peuvent provoquer un déclic. Vous parliez tout à l'heure de cet instant, quelque chose bascule. Parfois, quelque chose bascule en soi, et parfois, quelque chose explose ou craque. Et là, oui, il entend ça, et c'est tellement abject, c'est tellement laid, c'est comme un crachat. Hier, ça me fait penser, dans ce livre, il y a aussi une scène ou dans un autre de mes livres, où il y a un crachat qui fait basculer quelqu'un complètement. C'était encore dans un livre précédent. Oui, une insulte, mais même parfois, c'est même sans crachat, sans insulte, sans un mot, c'est un regard. Un regard peut vous tuer, peut vous flinguer quelqu'un. Hein, il y a des gens qui lancent des regards tellement parfois haineux ou méprisants ou qui vous écrasent littéralement. Et selon l'état dans lequel vous êtes et la relation que vous avez avec cette personne, vous pouvez totalement démolir, totalement.
Ben merci beaucoup, Sylvie Germain. Vos derniers ouvrages s'intitulent « Rendez-vous nomade » au pluriel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rendez-vous métaphysiques et spirituels dans ce livre. Le monde sans vous, Petite scène capitale, et le dernier qui s'intitule À la table des hommes, tous chez Albin Michel. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard, Didier Lagarde, Anne Kobilac et Delphine Baudet. Vous écoutez France Culture. Bon après-midi.